Eh bien, bonjour à tous, nous allons
ouvrir cette séance du bonjour, monsieur Sarnia, du conseil municipal.
Absolument.
Notre premier conseil municipal de rentrée, quoi, après la trêve de l'été. Donc, qui se propose pour être secrétaire de séance? Allez, Françoise Hazard, secrétaire de séance. Donc on passe à l'approbation du compte-rendu de la séance du 21 juillet donc, que vous avez reçu. Par rapport à ce compte-rendu valant procès-verbal, il y a-t-il des observations?
Ouais, moi, donc, on a parlé de la possibilité des personnes mobilité réduite à mes bâtiments publics. J'ai invité la commune à se préoccuper de la procédure adapte pour l'ensemble des bâtiments communaux. Je ne sais pas si ça a été fait. Est-ce que ça a été fait?
Donc on va apporter un élément d'information, ouais. Alain ou Nathalie? Nathalie?
Ah oui.
Ça a marché, l'inventaire a été fait. Tous les bâtiments communaux avec les aménagements qu'il faudrait faire pour les rendre accessibles.
Et les serfs ont été déposés avant le 27.
Avant le 27.
Ouais. Alors comment vous avez fait pour programmer les travaux sur 3-6? Il ne faut pas qu'il y ait une commission, ça aille.
Ben, en principe, il y a le document qui est précisé avec le montant des travaux et des...
Je pense que pour les communes de moins de 2000 habitants, ouais, enfin, on va vérifier, bon. Petites communes,
c'est
il y a...
C'est 225 euros d'amende. Si c'est fait, c'est parfait.
C'est pour tout être déposé.
Ok.
Points à faire. Tu veux qu'on rajoute ce point dans le... Enfin, le fait que tu fais mention de ça dans le compte-rendu?
Non, pas, c'est que ça soit fait.
Ouais. Donc, par rapport au compte-rendu, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, il est adopté à l'unanimité. Donc, maintenant, on va passer donc, à l'accueil d'un conseil municipal de François Daissy, donc, à qui nous souhaitons la bienvenue, suite à, donc, à la démission de Michel Battiti. Donc, comme le veut la loi, donc dans l'ordre, le rang d'établissement des listes électorales, François arrivait juste après Michel Battiti et il a accepté de venir. Voilà, donc on prend acte de son installation au sein du conseil municipal et on lui souhaite bienvenue.
Bienvenue.
Bah, merci à tous.
Bien, mais ceci dit, hein, le nouveau tableau du conseil municipal a déjà été transmis à la préfecture en temps et en heure. Donc on prend acte aujourd'hui en conseil municipal de son arrivée. Alors, on passe au premier point de l'ordre du jour qui est...
L'appel.
Oh, pardon, l'appel. Merci, Laurent.
Elle
où se trouve la liste?
Où se trouve la liste?
Oui, je veux bien parce que... Donc Isabelle Touzard présente, Alain Valette-Vialard, Laurence Rousseau, Serge Boulet donc, est absent et a donné procuration à moi-même, Claudine Moya-Anne,
présente.
Denis Pierre,
présente.
Mylène Julier,
présente.
Laurent Mailloux, Anne Jiménez,
présente.
Laurent Moulin, François Hazard,
présente.
Romain Deloustal aura un peu de retard, hein. Il va venir, mais il aura un peu de retard. Béatrice Tayoni-Cluster,
présente.
Mathias Mignard,
présente.
Béatrice Poncic,
présente.
Joanne Servigna,
il est présent.
Il vient de sortir, mais il est présent. Cécile Corsinos,
présente.
Michel Battiti, donc. Remplacer, donc il va falloir qu'on actualise.
C'est bon.
Elle tourne quelque part. Donc François Daissy.
Présent.
Et Gilles Chicot.
Présent.
D'accord. Donc, je la remets en circulation. Donc on va attaquer le premier point de l'ordre du jour, la convention de gestion transitoire donc, avec la métropole. Volet opérationnel et financier avenant numéro 1. Donc Nathalie va nous expliquer ça peut-être plus en détail. En fait, vous vous souvenez, nous avons, lors d'un précédent conseil municipal, voté cette convention de gestion transitoire, c'est-à-dire qu'en 2015, bien entendu, les compétences ont été transférées à la métropole, mais la métropole nous confie en retour pendant l'année 2015 la gestion de ces compétences. Donc, concrètement, de façon de façon pragmatique. Les dépenses que nous engageons sur tout ce qui concerne la voirie, les espaces publics, tout ce qui est les incendies, etc. Tout ce qu'on a fait sur les bornes d'incendie, le SDIS, toutes ces dépenses-là nous sont remboursées par la métropole. Donc, mais nous versons une attribution de compensation. Donc, la métropole nous a demandé, suite à la signature de cette convention, de signer un avenant où se sont stipulés vraiment poste par poste le maximum des montants que la métropole peut nous rembourser. Voilà, donc vous l'avez eu dans le pré-rapport. Je ne sais pas si je suis claire ou s'il y a des questions à ce sujet. Bien. Donc, ce qu'on vous demande, oui,
c'est pour ça que vous avez calculé ces bases un peu historiques, ce qui se passait au niveau de la commune en termes de dépenses.
Les attributions de compensation. Alors, on avait expliqué les modes de calcul à l'époque, et oui, je pense que on a eu plusieurs réunions là-dessus. Donc, on a voté une attribution de compensation provisoire en début d'année. Et ensuite, on est revenu sur, de façon plus précise et méthodique sur les différents calculs pendant l'année. Et donc, on va avoir à voter, mais je vais revenir à tout à l'heure, une attribution de compensation définitive. On va avoir à voter ça au prochain conseil municipal. Cette attribution de compensation définitive, elle a été votée hier au conseil métropolitain. Elle a été validée par les CLECT. Les commissions locales d'évaluation des charges transférées. Donc, et avant, il y a eu tout un travail. Je vous expliquerai ça en fin de conseil municipal. On fera un point là-dessus. Donc, en fait, très rapidement, pour répondre à ta question, il y a des modes de calcul institués par la loi réglementaire et il y a des modes de calcul dérogatoires qui ont été mis au point au niveau de la métropole. J'y reviendrai. C'est vrai que au départ, lors du calcul de cette attribution de compensation provisoire, c'est là-dessus qu'on se prononce ce soir, ça a été surtout des modes de calcul réglementaires, sauf pour un point, c'est les investissements dans la voirie, où d'emblée, dès le départ, il a été convenu que les communes ne transféraient pas 100% des investissements, de la moyenne des investissements faits sur 10 ans, mais seulement 70%, pour pouvoir conserver de la capacité d'épargne, parce que sinon bon nombre de communes se retrouvaient sans plus aucune possibilité d'épargne. Et donc en face, on garde donc 30% de ces investissements que l'on met en fonds de contrepartie, un peu fonds de concours, à chaque fois qu'il y aura un investissement sur la voirie face à la métropole. Mais ça permet d'assainir et d'alléger l'impact sur les budgets des communes. Voilà, donc là, ce qu'on vous demande, c'est quelque chose qu'on a déjà voté de façon globale, et là, c'est un avenant qui précise poste par poste et qui cadre un peu les remboursements que nous fait la métropole. Donc c'est à la fois des dépenses en investissement et en fonctionnement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet avenant ? Voilà. Je le passe au vote. Donc il s'agit de voter cet avenant, de l'adopter, et de dire que les dépenses et recettes correspondantes sont inscrites au budget primitif 2015, déjà, et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité des présents. Ah, moins une abstention, celle de Romain, de Gustave. Donc on va passer au point 2 qui est une convention, on vous propose d'adopter une convention de commune de commande entre Mutuelle-lès-Montpellier et Montpellier-Méditerranée-Métropole pour la réalisation de l'étude urbaine. Je laisse la parole à Alain de Valette.
Vous en avez parlé, vous savez qu'on a engagé notre étude pour finaliser notre projet urbain. La métropole a présenté un certain nombre d'objectifs que nous partageons complètement, qui sont la conciliation de l'activité économique et démographique, la préservation et l'aménagement des espaces naturels et agricoles. Donc là-dessus, on est complètement en phase avec la métropole sur les objectifs que l'on met dans notre projet urbain. Par contre, avec la création de la métropole et depuis le 1er janvier 2015, la compétence PLU a été transférée, ça on vous l'a expliqué, et la métropole doit élaborer deux niveaux de plans. Revoir le SCOT, mettre en révision le SCOT, et puis élaborer un plan d'urbanisme intercommunal sur les 31 communes de la métropole. C'est d'avoir un document indiquant, donnant un projet de territoire pour la métropole cohérent sur toutes les communes, les 31 communes de la collectivité. Dans la charte de gouvernance qui a été approuvée, il a bien été dit que ce projet de territoire de l'ensemble de la métropole se ferait en respectant les projets communaux, à condition qu'ils ne soient pas contradictoires totalement avec les objectifs fixés par la métropole. Mais comme nous, on est en phase, on va être dans les clous au moment où le PLUI va arriver en élaboration. Les démarches ont été engagées pour la révision du SCOT, vont être engagées pour la révision du PLUI. Il faut que le SCOT soit approuvé pour que le PLUI puisse être validé par la métropole après. Ça nous mène à des échéances qui sont autour de l'ordre de vers 2018. Donc, par contre, nous, on voudrait bien définir notre projet urbain avant 2018 pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça qu'on a lancé cette étude urbaine avec les objectifs, on en a parlé ici, les objectifs que vous connaissez, qui en fait est de traduire les éléments de cadrage nécessaires pour développer et gérer le développement urbain de la commune. On est une commune en avance, puisqu'il n'y a qu'une seule autre commune de la métropole, c'est 31, qui a engagé une démarche en amont de ce type-là. Donc la métropole s'est positionnée, en voyant la demande qui arrivait, non pas pour travailler au coup par coup avec chacune des communes, mais dans le cadre d'un groupement de commandes qui pour l'instant concernera deux communes et qui vont se rajouter au fur et à mesure les communes qui engageront les révisions et leurs projets pour aboutir au PLUI. Donc c'est dans ce contexte que ce groupement de commandes a été proposé par la métropole, qui est passé en conseil métropolitain, et la métropole s'engage à financer de notre étude urbaine à hauteur de 20%, de 10 000 euros. Sachant que c'est la commune de Murvielle qui continue à assurer la maîtrise d'ouvrage et qui pilotera cette étude-là.
Quelle est l'autre commune ?
Sussargues.
Ça veut dire que c'est le choix du maître d'œuvre, c'est la métropole qui le fait ?
Non, c'est nous.
C'est nous.
D'accord. Ça veut dire qu'on va généraliser le choix du maître d'œuvre
Non. Disons que nous, on avait déjà, avant toute cette question de transfert de compétences, plus, etc., à la métropole, engagé cette réflexion urbaine et globale sur l'ensemble du territoire. Et on est deux communes à avoir fait ça, pour des raisons variées, quoi. Et donc, plutôt que de cette avancée qu'on avait eue et c'est tout ce travail qui a déjà été mené, plutôt qu'il soit dilué d'emblée et qu'on doive attendre un appel d'offres, enfin une commande groupée à l'échelle de l'ensemble pour faire ses études urbaines, ben voilà, ils intègrent notre dynamique dans un groupement de commandes. Mais on reste maître d'ouvrage. Cette étude urbaine, elle a entre autres pour finalité de contribuer à l'élaboration du SCOT et du PLUI. Oui. Mais elle a aussi des finalités, on va vous expliquer, très préopérationnelles. On a deux secteurs notamment, le cœur de village ici, autour de la question du cœur administratif et commercial, etc. Et notamment le sud, le pied sud du village, côté entrée Perpignan, où là, on a d'emblée, on peut réfléchir à comment, de façon opérationnelle, on planifie ces secteurs-là. Il y a aussi toute la question du traitement de ce qu'on appelle des franges urbaines, c'est-à-dire comment on termine proprement la fin d'une urbanisation. Voilà, donc c'est vrai que c'est une étude urbaine qui a plusieurs finalités, dont celle-ci. Et c'est à ce titre-là que la métropole est là. Et pour bien marquer qu'il ne s'agit pas simplement d'une subvention, ce qu'on aurait pu s'attendre à une subvention classique, mais pour bien montrer qu'il s'agit d'une étude qui va venir alimenter le SCOT et le PLUI de la métropole, c'est un groupement de commandes. C'est pour ça que vous avez déjà voté le lancement de l'étude urbaine et la demande de subvention, mais ce que nous propose la métropole, c'est que ce ne soit pas une subvention, que ce soit un groupement de commandes pour bien marquer l'alliance que l'on a autour de cette étude urbaine. Donc ce sera, ils prennent en compte 20% du montant de l'étude, c'est-à-dire si on estime aux alentours de 50 000 euros, mais pour moi ce sera un maximum, j'espère, ça fait de l'ordre de 10 000 euros. On a déjà aussi une subvention de l'ADEME qu'on devrait avoir sur cette étude-là, et du Conseil général, on a des bonnes approches. Au niveau Conseil régional, on a aussi fait une demande de subvention. Là, il faudra qu'on attende sans doute un peu plus pour avoir la réponse, puisque Conseil régional, pour différentes raisons, mais notamment que le Conseil régional est en train d'établir un plan global sur toutes ces questions d'urbanisme sur la région, et que ça risque de prendre un peu de retard. Voilà. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est à obtenir le maximum de subventions sur cette étude, pour qu'au final, elle coûte le minimum un million. Mais elle est très importante. Hein.
On a déjà
oui, Laurent.
Calendrier.
Alors, c'est long. Je vous le dis. Calendrier.
Nathalie.
Annonce. On a lancé l'avis d'appel public à concurrence lundi pour sélectionner des bureaux d'études. Donc plusieurs vont faire acte de candidature. Suite à ça, jusqu'au 20 octobre. Ils ont jusqu'au 20 octobre pour constituer leurs équipes. On les analyse entre le 21 et le 22. Le 22, on rend un rapport par rapport aux analyses qu'on aura faites et on transmettra du coup le cahier des charges de l'étude urbaine aux trois équipes présélectionnées pour leur demander de rédiger une note méthodologique de façon à ce que là encore, selon les critères qui auront été préétablis dans le règlement de consultation, on puisse déterminer l'équipe qui nous accompagnera dans cette étude. Et là, les délais de remise des plis pour la note méthodologique sont fixés au fin novembre. L'idée, c'est de démarrer tout début décembre l'étude.
Un délai de
8 mois. On s'est dit 8 mois.
Mais sachant qu'on aura des rendus intermédiaires en fonction aussi des. Là, il va falloir qu'entre nous, on réfléchisse beaucoup à la question de la participation et comment quel dispositif on met en place pour avoir une réelle participation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette convention de groupement de commandes ? Non ? Donc, nous vous demandons d'approuver ce projet de convention de groupement de commandes relatif à l'étude de définition du projet urbain de Murvielle avec étude de faisabilité sectorisée, donc groupement de commandes entre Montpellier Méditerranée Métropole et Murvielle-les Montpellier, et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Donc là, on arrive au point 3, qui est une demande de subvention pour réaliser des travaux sur l'esplanade des droits de l'homme et le parvis des écoles. Donc, bon. Alors, comme vous le savez, on a mené depuis le début de l'année toute une réflexion sur l'aménagement des espaces publics qui vont de la maison de retraite jusqu'aux écoles. Donc on a, c'est vrai que ça partait d'une préoccupation de départ qui était tout au départ, de remplacer les jeux des enfants. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas remplacer les jeux sans avoir repris des choses en profondeur sur l'esplanade des droits de l'homme, qui est très fortement dégradée, et qu'on ne peut pas rénover à l'identique. Et très rapidement, on s'est rendu compte que la conception de l'esplanade des droits de l'homme ne peut pas se faire indistinctement de la place qui est au-dessus de l'esplanade, qui elle-même ne peut pas être imaginée indépendamment de ce qui se passe devant les écoles, et notamment des problèmes de sécurisation devant les écoles et de traversée de la route départementale et d'accès au parking. Donc c'est pour ça qu'on a fait un travail en deux temps. On a mené d'abord un premier travail de réflexion sur le, un peu conceptuelle sur le, tout l'espace public. Donc on a mené deux réunions de concertation, une réunion de diagnostic et une réunion de plus sur les scénarios, les propositions. Et puis à l'issue de ça, ben, on arrive à des premières propositions et à un chiffrage. Et ce qu'on vous propose, c'est ici de commencer à de faire des demandes de subvention d'un montant maximum auprès des différents partenaires et de commencer donc par l'esplanade des droits de l'homme. Alors pourquoi l'esplanade des droits de l'homme? Pour deux raisons. Un, parce que le bureau d'études Atelier Site nous a bien expliqué que tout cet espace public, depuis la maison de retraite jusqu'aux écoles et aux centres de loisirs, en fait, s'échelonne, est en relief, en dégradé, comme ça, et que la partie la plus basse, c'est au niveau de la maison de retraite. Et en toute rigueur, dans des aménagements comme cela, on commence par la partie la plus basse pour remonter vers la partie la plus haute. Ils ont identifié quatre secteurs, en fait, en réalité. Il y a aussi un quatrième secteur très bas, qui est tout l'espace qui se trouve entre la maison de retraite, la résidence de la Villa Romaine, des Termes, pardon, qui est en contrebas, là. Mais pour nous, ce n'est vraiment pas une priorité de commencer par là. En plus, l'aménagement de cet espace-là dépend de ce qu'advient aussi le bâtiment Jasselot et tout cet espace-là. Donc l'idée, c'est de commencer par l'esplanade des droits de l'homme. Un, parce que c'est la partie la plus basse de l'ensemble de l'espace. Et deux, parce qu'en plus, c'était pour nous une priorité affichée pendant la campagne de réaménager cet endroit qui est vraiment plus que délaissé. Donc voilà. Et deuxième élément, c'est donc on a sorti d'une demande sur le parvis des écoles pour commencer aussi à aménager cette partie-là, étant bien entendu que dans tous les cas, l'aménagement du parvis des écoles doit s'accompagner, et on a des réflexions là-dessus, sur une réflexion sur un aménagement sur l'accessibilité depuis la RD au parking à l'esplanade, puisque bon, c'est très compliqué. Donc si on veut déporter des voitures depuis les parvis devant les écoles sur le parking de l'esplanade, encore faut-il que le parking de l'esplanade soit facile d'accès pour que les personnes facilement aillent se garer là pour ensuite emmener les enfants dans les écoles.
Et les liaisons piétonnes entre le parking
et
l'école soient...
Voilà, donc on a des propositions d'aménagement. Bon, je ne vais pas revenir en détail sur tous les aspects techniques de nos propositions, donc des choses intéressantes. Voilà, donc pour pouvoir lancer maintenant le plus rapidement possible, je regarde Mylène parce que Mylène ronge son frein, elle attend pour les jeux, l'aménagement de ces espaces-là. Voilà, on propose de commencer par ces deux morceaux-là et donc on vous demande de nous autoriser à lancer ces travaux et à solliciter le conseil départemental, le conseil régional et l'État pour obtenir la subvention la plus élevée possible pour financer ces aménagements. Donc, le montant hors taxe est de 289 000 pour l'instant. Hein, on n'est pas encore, on a encore des voilà, c'est très large. Hein, je veux dire, là, on est plutôt sur une marge haute. Donc là, il faut encore qu'on travaille. Alors oui, juste avant de passer au vote, sur la partie esplanade des droits de l'homme par laquelle on veut commencer, se propose de faire un troisième round de consultation en essayant vraiment de toucher les riverains, les usagers, bon, qui sont tous les Murviellois en général, mais notamment les parents des enfants, enfin des écoles, etc., pour vraiment prendre les décisions finales, quoi, de façon très concrète. Juste, et puis donc les montants sont de 289 136 euros hors taxes pour l'esplanade des droits de l'homme et 162 533 euros hors taxes pour la restructuration et la mise en sécurité du parvis des écoles. Pour terminer, deux mots, c'est des réaménagements qui visent, le principe de départ, c'est vraiment réfléchir, comme je le disais, sur la jonction entre les espaces, qui pour l'instant ne sont pas du tout liés les uns aux autres, mais pas du tout. Le parking actuel de l'esplanade a été conçu de façon totalement dissociée et des écoles et de l'esplanade des droits de l'homme en dessous. Il y a aucun, les liens sont très, c'est très difficile quoi, de faire les transitions. Dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire d'essayer de trouver des aménagements végétaux, etc., qui consomment peu d'eau. Voilà. Après, on est en train de réfléchir sur la partie arbres. Sur ce qui peut être fait avec les pins, notamment de l'esplanade des droits de l'homme. Pardon ?
Ou sans les pins.
Ou sans les pins.
Voilà, c'est sûr que on nous a bien expliqué qu'aujourd'hui, plus jamais on ne met de pain sur des endroits comme cela, parce que c'est totalement incompatible avec les espaces publics comme cela. Mais maintenant ils sont là, donc il y aura des choix à faire par rapport à ces pains. Voilà. Toujours est-il que dans le nouveau projet, il y aura, parce que vous savez, il y a une pelouse pour l'instant, enfin un reste de pelouse. Refaire cette pelouse, c'est impossible pour deux raisons. Un, parce que les racines développées des pins interdisent tout travail du sol, donc on ne peut même pas imaginer deux secondes retravailler ces sols-là. Et en plus, voilà, dans l'ère actuelle, vu les contraintes qu'on a en eau voilà, et les coûts que ça amène derrière, on se pose beaucoup la question de ça. Non. Alors après, les réflexions vont aller jusqu'à quand même, est-ce qu'on garde quelques espaces quand même avec un petit peu de pelouse ou quelque chose qui ressemble, que c'est vrai que c'est agréable pour l'usager. Voilà, donc il faut arriver à combiner l'aspect agréable du lieu, repos, détente et tout, et puis ces questions environnementales, quoi. Et de coûts de fonctionnement après pour la mairie, pour gérer tout ça. Voilà, alors des observations. Gilles ?
Ouais, ces budgets-là, ce n'est pas des budgets qui sont liés à un projet fini.
Non, mais ils ne sont pas encore finis, mais on a quand même un chiffrage déjà bien, bien pointu.
Ça veut dire que le projet est ficelé.
Non.
Le deuxième point, puisque tu parles des arbres, moi, j'avais parlé il y a quelques années, mais je pense qu'il serait opportun de couper les arbres à Rouvière-Longue.
Les arbres ou les haies,
vous savez. Les haies. Franchement, on va à la catastrophe, ça va coûter une fortune à la commune. Oui. Quelques années, la robée commence à se soulever. Mmh. Moi, je pense que je commencerai à couper, à remplacer tout de suite, peut-être un sur deux, pour ne pas dire un Eric ou tout, mais moi, franchement, je le ferai.
Bon.
Parce que ça va être indénervable.
Depuis l'année dernière, on se pose la question de très près, ouais, notamment au niveau des haies. Ouais. L'entretien des haies, c'est insoutenable pour la commune. Donc, ce qu'on souhaitait faire, c'était approcher les riverains, bien entendu, pour les en informer. C'est impossible. C'est un coût énorme. C'est Elianus, oui. Il s'appelle, c'est
Elianus.
Ça,
hein?
Elianus. Alors, ça va passer à la métropole l'année prochaine, mais moi, je ne suis pas... Pas forcément pour décharger tout sur la métropole l'année prochaine. S'il y a des décisions à prendre, on les assumera, quoi. Mais en même temps, CS sont devenus des parvues, des brise-vues pardon, pour certaines personnes. Donc il faut les avertir pour qu'elles puissent prendre leur disposition aussi, pour pouvoir commencer elles-mêmes de leur côté dans leur jardin à aménager leur palissade, voilà, à le faire du jour au lendemain comme ça. Mais c'est des décisions qu'il faut prendre, si je suis d'accord avec toi. Hein. C'est évident.
Oui, c'est délicat. Je pense que les gens, quand ils voient l'enrobée qui est en train de se soulever, ça va coûter des dizaines de milliers d'euros et il faudra les couper parce qu'on ne pourra jamais refaire un arbre sur des racines.
Bien sûr.
Ouais. Ouais, je suis un peu plus partagé parce que pour bien connaître le site, il y en a un ou deux effectivement qui commencent. Ah, pas tous, non. Enfin, moi je suis
un peu plus partagé quand tu empêches les racines de bloquer l'humidité. Ce qui se passe, c'est que ça remonte et les racines gonflent et les racines font.
Après, déjà, les pins sont déjà plantés en contrebas par rapport à.
Tu parles du talus, non ?
Je parle dans le
talus. Moi, je parle déjà de la voie, dans le dernier four, la voie qui descend.
D'accord.
Tous les pins de droite.
Ça, je ne connais pas. Moi, je parle dans le talus, où effectivement, quand même, l'ambiance de ce lotissement, il est fait parce qu'aujourd'hui, 10 ans après, il y a une belle. Il y a beaucoup de végétation, c'est quand même agréable. Effectivement, aujourd'hui, il y a deux pins qu'on pourrait couper. Je suis complètement honnête parce qu'ils soulèvent. Sur lui d'ailleurs, qui soulève l'enrobé. Les autres, je pense qu'aujourd'hui, au vu de leur taille, ils ne sont pas bien soulevés. Donc je pense qu'en termes de racines, ils ont commencé à aller plus en profondeur que de remonter. En plus, ils sont plantés plus bas. Donc, voilà, je parle pour le
cas par cas.
Parce que ça fait quand même, c'est l'ambiance quand même de ces.
Bon,
de ces
en tout cas, soyez sûr que dans les futurs aménagements de Muriel,
il y aura d'autres pas.
il n'y aura plus de pain, il n'y aura plus d'Eleanus, il y aura des buissons qui poussent tout seuls et qui se limitent eux-mêmes, je parle sous contrôle de Mathias, là, en taille, on n'a pas besoin. Mais là, c'est une horreur. C'est
bon, après, il y a beaucoup de gens, moi je le vois, hein, à la Rouvière, qui taillent eux-mêmes.
Oui, mais pas tous.
Pas tous, mais il y en a certains qui le font.
Si ils ne taillent pas, ils nous demandent de tailler.
Et peut-être qu'effectivement, il va falloir trouver un compromis, parce que derrière tous les murs, ils sont, il n'y en a aucun qui est enduit. Aucun. Donc là, quand on va commencer à couper, ça va être une catastrophe. Quoi. Et c'est ça qui me fait peur. Alors qu'aujourd'hui, on a un lotissement qui est à peu près propre, on va dire, avec ces problématiques-là, je peux l'entendre. D'un seul coup, on va revenir
bon, ça, c'est un problème qu'on va attaquer maintenant. Un des multiples héritages de dossiers vraiment mal conçus et dont on a toutes les répercussions en termes de gestion après. Mais on est en train d'y réfléchir à la méthode. C'est sûr qu'on va, bien entendu, pas arriver en catimini et couper les choses. Mmh. Les riverains seront au minimum informés et concertés pour qu'on trouve quelque chose. S'il y a besoin d'aller dans quelque chose de graduel pour que les choses s'adaptent au fur et à mesure, on le fera. Mais il faut qu'on ait un objectif qu'on se fixe et on se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour l'atteindre, mais on sera obligé. Sinon, c'est insoutenable. La municipalité n'a pas les moyens d'entretenir ça. Elle n'a pas les moyens.
J'ai réagi par rapport à ce que disait Gilles. Par contre, sur le sujet effectivement de la demande de subvention, ça n'est pas de problème. Il faut la demander, bien sûr. Est-ce que, moi, je n'avais pas pu participer, malheureusement, en concertation, est-ce qu'il sera moyen, à un moment, d'avoir une présentation en conseil des solutions qui sont envisagées? Parce que, du coup, effectivement, on ne les a pas vues.
Alors, est-ce qu'elles ont été mises sur le site Internet? Elles doivent être mises sur le site Internet, des diaporamas de présentation. Il faut que je vérifie si Benjamin a le temps de le faire. Donc déjà, on les met sur le site internet, hein, les diaporamas des bureaux d'études, diagnostic et scénario. Et ce que je vous propose, c'est que... Bon, après, vous voyez, c'est très évolutif. Hein, si on présentait tout au conseil municipal, on passerait notre temps à faire ça, parce qu'il y a le diagnostic, ensuite il y a les scénarios...
Non, mais non, je parle plutôt du scénario retenu. À la deuxième concertation, vous avez évoqué qu'on est déjà dans des scénarios plus ou moins retenus, ouais. Avec une troisième concertation qui permettra un peu de finaliser un peu tout ça. Si entre cette troisième concertation, on pouvait avoir une petite présentation de 20 minutes, ça nous permettrait de nous mettre à jour.
Non, mais on peut le faire, s'il n'y a pas de souci.
Merci.
S'il y a d'autres observations, on va mettre cette affaire au vote. Donc, on vous demande de m'autoriser à lancer les travaux, je l'ai dit, à solliciter conseil départemental, conseil régional et État pour obtenir la subvention la plus élevée possible. Pour financer ces aménagements et m'autoriser à signer tout document afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors là, Laurence, c'est une décision modificative
sur le budget, qui est plutôt le budget 2015. Alors le budget a déjà été soumis au contrôle de la légalité de la préfecture, ça c'était acté, mais il y a une erreur qui s'est glissée lors de la transmission de cette budget. Donc il s'agit tout simplement que les dépenses mandatées concernant donc les investissements avancés à la métropole ont bien été inscrites dans la section correspondante, mais pas dans le bon chapitre d'opérations pour compte de tiers. Donc en fait, il faut faire une opération, donc opération pour compte de tiers plus 224 240 et mettre dans investissement sous mandat moins 224 240.
C'est un jeu d'écriture comptable.
C'est un jeu d'écriture, tout simplement.
Bon, comme ce n'est pas tous les ans et tous les jours qu'on fait des mandats comme ça pour la métropole sur l'investissement, je pense qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas aussi inscrit ça dans la bonne ligne. Quoi. Donc on vous demande d'accepter cette modification. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc la modification est acceptée à l'unanimité. Donc, on arrive à la constitution du CCAS, au remplacement d'un membre administrateur du CCAS. Alors, là, on va procéder à une nouvelle élection du conseil d'administration du CCAS suite à la démission de Michel Battiti. Donc, son siège d'administrateur étant vacant, il nous faut... à nouveau voter l'ensemble de la liste, étant donné qu'il n'y avait pas de candidat supplémentaire sur la liste. parlait pas de suppléant. Pardon ?
C'est pas un suppléant.
Pas un suppléant, c'est un surplus. Un remplaçant, peut-être on peut dire plutôt qu'un suppléant. Un remplaçant. Voilà, et donc on vous propose cette fois de faire un nouveau vote, c'est ça Claudine ? Mais cette fois, on vous propose une liste où il y a
une remplaçante.
Une remplaçante de plus. Comme ça, si jamais quelqu'un démissionne, on ne vous demandera pas de revenir voter. Donc vas-y Claudine, si tu veux annoncer la liste.
Donc Claudine Moyane, Anne Jimenez, Béatrice Consiche, Françoise Hazard, Laurence Rousseau suppléante.
Voilà. Donc nous allons procéder à ce vote. Donc on vous propose de le faire sans urne ni sans, et sans isoloir.
Si vous voulez,
à moins que quelqu'un ne le demande.
On va voir en plein
niveau. C'est ça ?
Personne ne demande à. Personne ne le demande.
Ça manque un peu de parité.
Ça, c'est sûr. Hein.
Mais le milieu social est très féminin.
Ouais, je sais pas pourquoi, mais.
Vous voulez venir, vous avez un petit pot ?
Il faut qu'on fasse une photo d'une petite boîte, quand même, pour mettre. Est-ce qu'il faut qu'on désigne un scrutateur par vote ou pas ? Non ? Bon, allez, à voter. Ah, je dois mettre deux bulletins.
Ah oui, c'est ça, exact.
Si, on monte, c'est ça.
Elle ne m'a pas dit parce qu'elle veut pas faire.
Tu fais des petites barres.
Moi, je voulais me changer de personnel pour profiter. Franchement.
On dépouille. Vous dépouillez ? C'est votre besoin ?
On donne juste le nom de la liste, hein. Liste Claudine Moyane.
Une.
Liste, il faut dire tout.
Liste Moya.
Je te le dis.
Deux, il faut dire, faut compter ?
Ah oui, il faut compter.
Deux, liste Moya. Trois, liste Moya. Quatre, liste Moya.
C'est vrai ? On va faire.
Tu veux ouvrir ? Six, liste Moya.
On doit voter à bulletin secret.
7 liste Moya.
On écoute.
Liste Moya.
L'autre, c'est liste Anne.
Tu pourrais boire. Hein.
Liste Anne.
Ouais.
On est combien ?
9.
9
liste Moya.
Liste Moya.
Ah, rien.
Rien. 10 liste Moya.
On
liste Moya. 12 listes Moya. 13 listes Moya. 14 listes Moya.
Non, justement, il y a 14 listes Moya et 15, un blanc.
15 listes Moya. 16 listes Moya. 17 listes Moya. 18 listes Moya, un blanc.
D'accord. Donc il y avait bien 19 votants. Donc on a un vote blanc et 18 votes pour la liste Claudine Moyane. Donc la liste Claudine Moyane est élue à la majorité. Donc je vous remercie. Donc on va passer au point 6. Fusion des régies de recettes entre centres de loisirs et restauration scolaire pour l'encaissement des droits perçus pour l'accueil périscolaire. Alors, donc là il s'agit juste de rationaliser un petit peu la régie de recettes au niveau du centre de loisirs. Jusqu'à présent, ces régies de recettes étaient exercée par des personnes différentes, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc ce qu'on vous propose à partir du 1er octobre 2015, c'est de fusionner la régie de recettes pour le CLSH, la régie de recettes pour l'activité cantine de l'ALAE et la régie de recettes pour l'activité garderie de l'ALAE. Donc, et de créer à partir du 1er octobre une régie de recettes unique qui s'appellera Accueil périscolaire et qui sera rattachée au centre de service, au centre de loisirs associé à l'école. Donc, ce qui est important, c'est que elle est localisée dans les locaux du CLSH. Elle encaisse les produits liés à l'accueil périscolaire, donc restauration scolaire, accueil à la surveillance périscolaire, produits des activités de loisirs. Et surtout, ce que nous vous demanderons, c'est de voter des modes de recouvrement suivants, numéraire, chèque bancaire, chèque emploi service universel, chèque vacances, carte bancaire, paiement en ligne par Internet, sur Internet et prélèvement sur compte bancaire. On vous demande de voter ça, donc on n'a pas encore le paiement en ligne sur Internet, mais on va l'installer prochainement, donc on vous demande de... Pardon ?
Carte bancaire. Quand ce sera fait, comme on le projette.
Voilà, comme on le projette, et ça doit être prochainement, on vous demande de voter l'ensemble de ces modalités de paiement.
Et il sera ouvert à tous les services, le paiement en ligne ? Pas uniquement à cette régie ?
À terme.
Pour l'instant, que cette régie.
Pour l'instant, c'est cette régie.
Ah bah si on modifie d'autres régies, pourquoi pas, hein ?
Donc ce qu'il faut à chaque fois, c'est modifier la régie en conseil municipal, puisque le conseil municipal fixe les montants, les régies et les modalités de paiement. Les lieux et modalités. Oui ? Attends, je finis juste le... Voilà, c'est ça les choses importantes. On met un fonds de caisse de 50 euros et le montant maximal d'encaisse est de 5 000 euros. Et voilà. Après, c'est de leur...
Donc, dis, là, les régisseurs, ça va être Stéphane de Valkens et Mélanie.
Oui.
Jusqu'à présent, c'était... Il y avait qui ?
Marie-Claire Garcia. Marie-Claire. Mais comme elle n'est plus au centre de loisirs...
Il n'y aura que ces deux personnes, en fait, après...
C'est eux qui encaissent, en fait, l'échec maintenant au centre.
Et le fait qu'il y ait trois régies avant, il y avait une explication pourquoi il y avait trois ?
Je pense que c'était peut-être pour dissocier les comptes et avoir un suivi, mais maintenant, comme on a informatisé, on a une application qui gère tout ça, on peut très facilement avoir les décomptes et le suivi des recettes par poste.
Et le fait de réunir les trois ensemble, est-ce que ça impose la même façon de facturation ? C'est-à-dire que pour le centre de loisirs, pour les vacances, c'est fait sur le quotient familial ? Alors que les cantines,
non.
C'est fait de façon différente, est-ce que ça
impose c'est... Alors, que... Non, pas du tout. Ça, la question des tarifs, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Et la question des tarifs, c'est un point qu'on va aborder lors du prochain conseil municipal, notamment à l'occasion du changement de prestataire à la cantine. Et on vous proposera à ce moment-là des nouvelles tarifications en allant vers une prise en compte du quotient, enfin, des conditions socio-économiques des foyers, y compris pour les cantines. Donc on est en train de travailler à simuler un petit peu différents scénarios, parce que pour l'instant, la cantine, c'est le même tarif pour tous, c'est juste le nombre d'enfants qui fait varier les...
Est-ce que ça sera pris en compte aussi, le quotient familial, mais le quotient familial prend sur les revenus l'année précédente, et du coup, la situation sur l'année en cours peut être différente. Donc est-ce que cette différence-là...
Ça, on ne peut pas se prononcer là-dessus maintenant, parce que c'est ces choses qu'on discutera d'ici le prochain conseil municipal, ces différences. Ouais. Après, il faut avoir un critère objectif pour attribuer un tarif.
Là, on est d'accord, c'est juste le mode de paiement, en fait.
Là, c'est le mode de paiement.
Et surtout,
c'est la désignation des régies, vous savez.
Oui, mais on rassemble tout de manière à ce qu'il y ait une seule porte d'entrée.
Voilà. Puis sur une facture, on pourra faire figurer... tous les paiements, cantine, garderie, plutôt que vous envoyez une facture sur chaque, d'encaisser dans chaque régie différente, là au moins on met tout dans un truc, nous on sépare après, grâce au logiciel, on peut faire notre compte analytique, mais après au moins pour les parents c'est vachement plus simple de recevoir qu'une...
Juste une chose, Nathalie, les chèques emploi service, c'est nouveau, pour qu'on puisse utiliser les chèques emploi service.
Non mais c'est les tickets CESU, qui sont...
Chèques emploi service universel.
Oui. Oui, c'est nouveau.
Ça, c'est nouveau. Ça peut être utilisé maintenant c'est pour vrai. Le paiement de...
On va faire une convention, en fait.
Ah, d'accord.
Que les parents puissent payer via le ticket CESU.
Ticket resto, ça...
Non, ça marche pas.
Bon, je demande, hein, on sait jamais.
Chaque vacances, chez vous, vous avez un produit chez vacances, pour les centres de loisirs, c'est bien. Les séjours, c'est super. C'était peut-être le cas.
Voilà, donc on vous propose, Est-ce qu'il y a d'autres observations?
C'est très bien dans leur poste, c'est une responsabilité supplémentaire à ces personnes.
Oui, on va faire évoluer les...
Ils ont une indemnité de régie qui nous est ensuite remboursée par l'État, mais il y a 110 euros effectivement aux régisseurs. C'est le cas pour tous les régisseurs quand il y a un certain montant. Après, on leur demande aussi de transmettre une caution personnelle sur le montant.
C'est combien 110 euros
pour
combien? C'est quoi, par mois?
Non, c'est pour...
Pour l'année?
Par an, oui, pour l'année.
D'accord, ok.
Celui qui n'a pas caution.
Par mois,
c'est
rare.
D'un montant qui est assez conséquent, on ne va pas l'encaisser.
Hein.
110 euros, c'est annuel.
Pour l'année, oui, ça nous rassure.
Non, c'est annuel.
Ça correspond à la caution?
Non.
Non.
La caution est beaucoup plus élevée.
30 centimes par jour, c'est bon.
C'est l'assurance.
Donc on vous propose de. On propose au conseil. Il y a d'autres observations? Donc je vais vous proposer de. Je propose au conseil municipal d'accepter cette modification de régie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on passe à l'approbation d'une convention d'animation dans le cadre du projet éducatif de territoire, le PEDT. Donc là, je vais prendre la parole en l'absence de Serge Boulet, qui a mis ça au point. Donc en fait, dans le cadre du PEDT, donc, on met en place les activités périscolaires. Et ces activités périscolaires font recours soit à des animateurs salariés de la commune, soit à des intervenants. Et ces intervenants font des prestations qui sont payées sur facture. Et jusqu'à présent, il n'existait pas de convention cadrant le fait que l'on confie nos enfants à des intervenants extérieurs. Donc nous avons mis au point cette convention cadre hein, cette convention cadre, elle est où Elle est là, elle est sur la
table. On va la distribuer en début de séance. Oui.
On vous demande de voter un projet, hein. On risque encore un tout petit peu de le faire évoluer, mais ce qu'on vous demande, c'est de voter la démarche, en fait, et le projet. Donc c'est ce document que vous avez sur les tables. Donc ça s'adresse donc aux enfants des écoles maternelles et primaires. Et donc, dans cette convention, on précise que l'intervenant, alors c'est souvent des associations, hein, mais, définissent des objectifs pédagogiques. On fixe un petit peu les conditions de mise en œuvre de l'activité, la définition d'un calendrier, des éléments comme cela. On définit les moyens matériels mis à disposition de l'intervenant et on fixe un petit peu les relations contractuelles à ce niveau-là. Les questions de réglementation, de respect des réglementations en vigueur sur les taux d'encadrement et surtout sur les responsabilités. Donc on demande bien entendu que l'animateur soit qualifié, qu'elle ait bien souscrit une attestation d'assurance et qu'elle soit annexée à la convention dès lors qu'elle sera signée. Je précise que cette convention sera signée à chaque période scolaire, à chaque période, entre deux petites vacances. Donc c'est une convention cadre hein, qu'on vous demande d'examiner. On fixe aussi les règles pour prévenir, des règles un petit peu d'annulation de la séance, etc. On fixe les engagements de l'intervenant au niveau de son arrivée, de la tenue des listings, du respect des normes de sécurité, du respect des horaires, du décompte des enfants, du fait qu'il signale à la commune, aux animateurs, ou notamment aux directeurs de centre de loisirs, les incidents qu'il peut y avoir, des choses comme ça, qu'il sera muni d'une pharmacie, on lui demande de ranger les locaux après, parce qu'on passe un temps fou là aussi à ranger, à nettoyer, etc. Et on demande surtout de finir un petit bilan rapide à la fin de cycle. Donc on fixe seront fixés dans ces interventions les montants des rémunérations. Et on fixe aussi les modalités de ce qui se passe en cas d'annulation d'une séance, soit du fait de l'intervenant, soit du fait de la commune. Du fait de l'intervenant, et on fixe un délai minimum pour prévenir, au-delà duquel la séance ne sera pas rémunérée. Et du point de vue de la commune, on précise bien qu'en cas de force majeure, notamment orage, alerte rouge, alerte orange, etc., et que la séance est annulée, on ne rémunère pas l'intervenant. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des observations par rapport à cette convention cadre. Oui, c'est d'accord, cadre, oui.
Donc, en résumé, c'est un cahier des charges, en fait, pour chaque association, qui lui donne un peu sa règle de conduite.
Voilà, et puis qui clarifie les choses, qui n'est pas de malentendu entre... et surtout que les questions de responsabilité vis-à-vis des enfants soient bien
éclairées. J'ai juste une petite question, effectivement, notamment sur les aspects responsabilité. Est-ce que... Bon, parce que la plupart du temps, et ça c'est lié à l'autre charte qu'on avait aussi validée, vous savez, où on indiquait comme quoi les associations sur lesquelles qui ont des subventions doivent également animer et participer au périscolaire. Et du coup, est-ce que dans le cadre de contraintes qu'on a intégrées dans cette convention cadre, est-ce que nos associations rentrent dedans ou est-ce qu'il y a des éléments particuliers? Je pense notamment en termes d'assurance des fois, qui vont alors générer un coût supplémentaire qui font qu'ils me diront moi j'ai du mal du coup avec ces nouvelles contraintes, j'aurais du mal à répondre et pouvoir venir faire ces animations.
Non, mais de toute façon, elle est obligatoire. Il faut qu'il y ait l'assurance. Donc on va pas. Il faut qu'elle y soit. Donc si ça peut permettre de clarifier des choses, ça le fera.
Parce que c'est ça, un peu ma crainte, c'est que du coup, certains qu'on pouvait utiliser... Alors, je suis d'accord avec vous, il faut clarifier d'un point de vue...
Là, il faut clarifier. C'est trop, c'est trop important.
C'est, voilà. D'un autre côté, est-ce que vous avez fait ce que je veux dire par là, est-ce que vous avez fait un tour des associations en disant, globalement, en fait, toutes les associations rentrent dedans, donc ça ne change rien, ou effectivement, il y a quelques associations, ça ne sera pas possible, mais de toute façon, on ne les utilise pas, ou... Voilà, c'était ma question. Globalement, ça devrait être...
Ça devrait passer, d'accord. Ça devrait passer parce que le foot ils sont déjà assurés,
de ta responsabilité, tu n'accepterais pas une association qui intervient auprès des enfants s'ils ne rentrent pas dans un cadre réglementaire.
Si
l'association prend les risques, elle sait qu'elle ne peut pas intervenir dans le cadre d'étape.
Non mais ce que je voulais simplement dire par là,
est-ce qu'on a évalué les effets de...
Ça c'est normal, c'est pour protéger. Ce que je voulais dire par là, est-ce que je ne sais pas suffisamment, c'est si... je prends le cas extrême, l'ensemble ou 90% des associations qui sont ici ne peuvent pas rentrer là-dedans. Et je me dis, on est en train de couper la branche sur laquelle on est. C'était ça ma question. Non, il n'y a pas de crainte par rapport à ça.
Non, je n'ai pas de crainte.
Okay.
Plupart, c'était des contrats qu'on avait avec certaines associations. C'est un peu les termes des contrats aussi.
D'accord, qui rappelaient déjà un petit peu ça.
Là, c'est vraiment...
Sauf que vous voulez l'uniformiser pour l'ensemble des...
Il y a Anne et Denis.
Je voulais juste concernant l'engagement, une donnée sur le nombre d'adultes présents lorsqu'on parle de sortie hors de l'enceinte par rapport au groupe. Et pour le coup, si l'animateur est tout seul, un moyen de communication. Avoir un moyen de communication sur lui. Un enfant fait un malaise ou se blesse ou ils sont à distance. Il faut que, s'il est tout seul, il faut qu'il puisse relayer, en tout cas appeler, relayer, pouvoir nous prendre.
Non, ce qui se passe, c'est que quand le taux d'encadrement dépasse, c'est très précis, c'est respecté à la lettre, et quand un intervenant a plus d'enfants que prévu, il y a un animateur du centre de loisirs.
Non, mais même s'il sort et qu'il est tout seul avec ne serait-ce que 4 enfants,
le moyen de communication. On va l'ajouter, ça. Qu'il y a moyen de communication. Qu'on s'assure qu'il y a moyen de communication.
Pas obligé à quelqu'un d'avoir son portable personnel pour des finalités professionnelles. Ça veut dire qu'après, c'est nous qui devons procurer un portable.
Oui, mais peut-être.
Voilà. Bon, on va mettre ça. En tout cas, il faut s'assurer des moyens de communication. Et Denis, tu
veux dire ? C'est juste un point de précision, effectivement, sur les assurances. Parce qu'on a discuté un peu plus tard qu'en début de semaine avec une association qui est effectivement couverte pour ses ateliers régulières, parce que c'est ses adhérents qu'elle couvre. Là, en l'occurrence, dans le cadre d'étapes, ce ne sont pas ses adhérents, donc ça nécessite de prendre une assurance complémentaire. Donc ça a un coût, en fait. C'est pas intégrant. Je pense que c'est pareil pour le foot, en fait. La distinction, elle est là. Ce ne sont pas des adhérents de l'association.
C'est
donc, il y a un surcoût d'assurance.
Donc c'est pour ça qu'il faudra, je pense, faire attention. Si dans le cadre des prochaines budgets, budget qu'on fait, si on sent que vraiment c'est un coût supplémentaire, il faudra malheureusement prendre ça en
D'accord.
Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est effectivement les licences qui payent les
assurances. La question vient de la compagnie d'assurance à cette association-là. Aujourd'hui, c'est les assurances qui distinguent bien dans leur tarification. Est-ce que vous êtes une association, vous êtes une activité effectivement avec vos adhérents, ou est-ce que vous intervenez auprès de l'État, et dans ces cas-là, chez nous, le contrat fait qu'il y a un supplément. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, c'est les assurances qui se sont saisies de ça.
Ok, donc on regardera ça de près.
Isabelle, oui, bien. Il y a 2 balles, mais 3 et 12 ans, Marc 12 ans, un enfant qui a l'élémentaire avec une année de retard, il a 12 ans. Tu vois, d'accord. Comme ça, tu es sûr que tu sais qu'on change, c'est un détail.
D'accord. Voilà. Gilles ?
Moi, ma question, c'est... Je ne sais pas trop comment ça marche, mais une association qui fait bon, le foot, qui peut avoir un animateur avec 15 gamins, c'est un certain statut. À partir du moment où c'est du temps périscolaire, est-ce qu'on ne rentre pas dans un autre statut où il faut tant d'animateurs ?
Si, c'est respecté.
Ça, c'est respecté.
En fait, c'est de la commune, mais ça, c'est pas de la responsabilité de la personne.
C'est la commune qui met le complément.
Oui, c'est-à-dire que nous, dès lors qu'on... on leur demande pas à eux d'assurer, par exemple, s'il y a 15 enfants alors que le seuil est à 14, on va pas leur demander de mettre, eux, pour toujours le même tarif, 2 animateurs. Dans ce cas-là, c'est la commune qui met un binôme, un animateur du centre de loisirs, pour respecter les taux d'encadrement.
Mais c'est pas noté.
Parce que suivant les activités.
Non, mais je sais pas
si c'est on peut le rajouter sur le jeu. Mais... sport, et suivant l'âge des enfants, à mon avis, il faut plus d'animateurs.
Oui, ça, c'est vrai.
La dernière fois, on a voté un règlement intérieur des activités. Oui, tout ça. Et dans le règlement intérieur, on a précisé les taux d'encadrement. Donc là, il n'y a pas besoin dans la convention. Ça, c'est vraiment pour encadrer les interventions, pour qu'on n'ait pas d'histoire avec les associations.
Mais une personne est disponible.
Oui, mais nous, de toute façon, les groupes sont constitués. Pour un animateur, on sait qu'il nous faut, on peut pas dépasser entre 14 ou 18 enfants. Ouais. Et on n'inscrira pas à cette activité plus d'enfants que ça. S'il devait y en avoir plus, on mettra un animateur
en plus de la commune.
C'est la responsabilité de la commune.
Voilà. Oui. Et c'est le nombre d'animateurs, le nombre d'enfants. Peut-être encore plus de membres pour le même nombre d'enfants. Ça, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des
activités? Non, il y a un taux d'encadrement légal et voilà.
Par activité.
C'est lié à
C'est par âge.
C'est lié à la tranche d'âge.
Et c'est pas lié à l'activité.
Après, s'il y a une activité qui, oui, effectivement, il faut quelqu'un qui.
Mais là, c'est pas réglementaire, c'est pédagogique. C'est-à-dire, il ne faut pas plus de temps d'enfants pour mener l'activité. C'est vrai que du foot, tu peux prendre. Après, il y a certaines activités où le maximum est inférieur au seuil légal d'encadrement. Après, c'est des considérations pédagogiques.
Puis après, dans le coût que l'association facture, s'ils doivent venir à deux parce que leur activité nécessite d'être à deux, c'est pris en compte dans le coût proposé à la collectivité d'accepter ou pas les tarifs proposés. Après, c'est eux qui s'organisent comme ils veulent. Mais le principe, c'est le taux d'encadrement légal et ça, il est respecté dans les activités. C'est pas.
C'est un taux qui est lié.
À l'âge des enfants.
Mais si l'association, elle a une activité sportive.
C'est d'accord qu'il y a des activités.
Eh bien, il vient d'être
risqué.
Atelier de dessin dans cette chambre.
Si tu prends une assoce qui propose de l'escalade, lui, le technicien, il sait combien d'enfants il peut avoir en responsabilité. Si tu veux, c'est lui qui va dire, moi, je ne peux pas prendre plus de 6 enfants. Je suis dans une extrême. Oui. Et si jamais on en met plus, je pense que c'est à eux de dire effectivement, il nous faut 2 diplômés d'État pour telle et telle activité.
Ce choix du nombre d'animateurs dépend de
l'activité.
C'est l'association qui va le définir. Quoi.
Tout à fait, parce qu'elle connaît la réglementation pour une activité sportive. D'accord. Effectivement, tu as raison de dire qu'il y a des activités sportives spécifiques, comme en vélo, tu ne fais pas une sortie vélo avec un seul animateur. Voilà. C'est strictement interdit. Il faut un devant, un derrière. Mais ça, c'est celui qui vend quelque part la prestation qui doit connaître ce cadre réglementaire. Et effectivement, à la commune, mais la commune ne comblera pas avec un animateur spécialisé pour l'exemple de l'escalade.
Pour les activités vraiment spécialisées.
Ça, c'est vrai. C'est des textes, toutes les associations qui font une activité spécifique, la connaissent.
Ça, c'est dans le contrat.
Mais c'est compris dans le contrat de prestation de l'association. Ils viennent le nombre dont ils ont besoin
D'accord. Et si un animateur, on revient, escalade, prend plus d'enfants, c'est lui qui est responsable, oui. Parce qu'il a effectivement, il est parti avec un seul diplômé d'État. Voilà.
Mais après, bon, ils ne font pas escalade en table, donc ça me...
Mais
là, comme on fait théâtre, dessin, musique, on s'en tient au taux légal d'encadrement.
Non, mais après, c'est vrai.
Il y a deux Laurent.
On a combien d'intervenants extérieurs actuellement sur une année à peu près pour avoir une idée.
On a combien?
J'ai pas noté ça.
Je dirais 5 ou 6.
Ouais, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il y a mosaïque, il y a musique, méditation.
Théâtre, foot.
Il y a eu anglais, mais il n'y a plus anglais, il n'y a plus dessin non plus, et tout ça. Mais c'est ça à peu près, ça tourne un peu en cycle.
Deuxième question, est-ce qu'il faut avoir un statut associatif pour être intervenant dans certaines étapes, obligatoirement, ou est-ce qu'on peut avoir un prestataire?
On peut avoir un prestataire, du moment qu'on veut quelqu'un de plus facturé.
Auto-entrepreneur, ça?
Bien, si vous voulez.
Le CAN, c'est pas présent.
J'avais une réflexion par rapport à la convention. Là, on demande un certain nombre d'engagements à l'association, mais à la fois, je me demande s'il ne faudrait pas mettre que la mairie se dégage de certaines responsabilités. C'est-à-dire que là, on leur demande des engagements, mais nous, on ne dégage pas de toute responsabilité si ces engagements ne sont pas tenus. Par exemple, on dit à l'association d'avoir des gens diplômés, mais si à la fois, ils n'ont pas l'encadrement nécessaire des gens diplômés, on n'est pas dégagé de nos responsabilités par rapport à l'ensemble de cette convention.
Ça ne vaudra rien une décharge de responsabilité là-dessus. Parce que je pense que c'est à la commune de vérifier.
Ouais.
C'est comme quand on a de la sous-traitance, on est obligé de vérifier que le personnel est bien déclaré, normalement, même si ce n'est pas l'employé de l'entreprise. Donc là, je ne pense pas qu'une décharge soit légalement.
Pas de valeur.
Ça ne vaudra rien.
Bon, on va vérifier, j'ai juste vérifié, mais on...
l'association, c'est ouvert à...
D'accord, mais on changera.
Intervenant. C'est un projet, vous êtes bien le relever, mais c'est vrai que...
Et quand on dit l'association s'engage à solliciter l'internat d'un animateur compétent et qualifié, ça ne veut pas dire que c'est dans son association qu'il prend un animateur. Oui, c'est bien. On peut imaginer qu'il y a une demande à la mairie quoi, de solliciter l'intervention d'un animateur compétent et qualifié pour l'encadrer au groupe d'enfants.
Non, ce qu'on demande à l'association, c'est que la
personne qui le veille, c'est pas pour qu'il.
Ouais. Non, mais c'est, je pense non,
va, il va pas nous facturer.
C'est la rédaction qui s'engage à solliciter l'intervention d'un animateur compétent et qualifié. C'est lui qui nous fournit l'animateur. Il va solliciter, ouais, il va mettre à disposition. C'est pas tout mis à disposition.
Ouais, mettre à disposition, si tu veux.
Tu vois, j'ai l'impression que là, il va demander à la mairie de mettre un animateur à
disposition. D'accord, on va mettre à disposition. Bon, elle va être super cette convention.
Une dernière question. Denis, du coup, tu nous as pas dit comment l'association avait réagi par rapport à cette.
Elle attend la réponse.
Elle attend la réponse.
Oui, non, de ça, à savoir si, effectivement, là, on n'avait pas encore ce document-là. La question, c'était, est-ce qu'on prenait... est-ce que la commune assurait l'activité complètement?
D'accord.
Est-ce que l'association devait prendre sa part de responsabilité et donc s'assurer en conséquence? Il y a aussi une troisième voie, apparemment, qui est celle où la commune peut renoncer à recours. Et en gros, s'il y avait un problème sur lequel l'association serait responsable, la commune accepte de ne pas poursuivre. Ça se fait aussi dans certains cas.
Et du coup, dans la solution, parce que là, on a rédigé maintenant, aujourd'hui, on dit à l'association, il faut
qu'on soit. Il faut qu'on sache, c'est pour ça que je pense qu'il faut. Donc, savoir quel surcoût ça représente. Et effectivement,
ça veut dire que les associations vont dire là, je vais peut-être vous répondre. Ouais. C'est ça le risque que j'ai exprimé.
Oui, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache quel surcoût ça représente.
Voilà, pour eux, parce que si on leur envoie comme ça, ils vont dire, bon, bah, dans ces conditions, rien, quoi. Et on risque de se retrouver sans association ou entreprise. Ou ils vont intégrer le surcoût dans le.
Parce que les associations, elles n'interviennent pas que sur Montiel. Donc toutes les communes vont leur demander aussi ces assurances supplémentaires. Donc ça va se lisser sur toutes les acquis de l'année. Hein.
Bon, écoutez, moyennant tous ces amendements,
la partie dont vous parliez, c'est où? Parce que je ne la trouve pas dans la convention.
Article 4, après le l'association s'engage à solliciter l'intervention.
Dernier paragraphe,
voilà, remplacé par à mettre à disposition.
Mettre à disposition un
animateur compétent. Article 4.
Bien.
Suite à la solution du grand.
pour entraîner une autre qualité à prendre connaissance.
Mais mettre à disposition, mettre en question un animateur compétent. Bien, alors moyennant toutes ces suggestions, on va vous demander d'approuver ce projet de convention entre les associations intervenant sur, non, les intervenants sur l'étape dans le cadre du PEDT, convention donc entre les intervenants et la commune de Muriel-le-Montpellier. Et m'autoriser à signer ensuite tout document relatif à cette affaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Vous avez sous les yeux, si vous souhaitez, la liste des décisions prises depuis le mois de juillet ou le mois de mai, je crois. Voilà, c'est ça.
Oui.
On va aborder différents points d'information et puis répondre à une question. Madame Corsinos m'a fait une question ouverte relative à GGL. Donc ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons été informés par le tribunal administratif tout récemment qu'il a émis une ordonnance le 1er septembre, dont on en a eu copie le 4 septembre, une ordonnance que le juge de l'urbanisme, il s'appelle comme ça, juge de l'urbanisme, c'est ça, ou enfin, de la section urbanisme au tribunal administratif. Donc il a rendu une ordonnance sur le recours qu'a fait l'association La Genette par rapport à la première délibération de création de la ZAC, donc de l'ancienne équipe municipale. Donc il y a eu un recours, vous en souvenez. Et donc le juge a décrété qu'il n'y avait pas lieu à statuer. Du fait, selon lui, que nous avons voté ici une délibération qui abroge la première délibération contre laquelle la Genette avait fait un recours. Pas si je suis claire. Donc il n'y a pas de jugement.
Mais le recours est devenu sans objet du fait que la délibération était prise en conséquence.
Voilà, donc nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser avec notre avocat cette question-là. Juste pour votre information, les mondes d'information, la première délibération, entre le moment où la première délibération a été votée et le moment où on a voté la deuxième, où elle a été abrogée, la première a été suivie d'effet, du fait de la signature du contrat.
Du contrat de concession. Mm-hmm.
Voilà, donc on est en train d'analyser la conduite à tenir maintenant suite à cette décision. Et je pense que l'association de la Genette, de son côté aussi, doit être en train d'étudier la conduite à tenir. Donc deuxième élément d'information, vous savez que ça c'est une autre affaire. GGL a émis un recours contre notre délibération d'abrogation de la délibération de création de la ZAC. Et à ce niveau-là, pas de nouvelles pour l'instant. On a... rien de neuf au niveau du tribunal administratif. Et en ce qui concerne nos interactions avec GGL, il y a eu l'arrêt des vacances, donc on les a pas. Le dialogue est toujours ouvert et on les a pas vus depuis la dernière fois et on doit les revoir, je pense dans le courant de l'automne. On attend de pouvoir analyser aussi tous ces événements liés aux suites données à ces recours dans un sens et dans l'autre. Pour retourner les voir. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Alors, juste quelques points d'information. Donc, nous avons voté hier en Conseil métropolitain l'attribution de compensation définitive. Donc, certains d'entre vous avaient demandé, j'avais envoyé le détail du calcul de cette attribution de compensation. Elle avait auparavant été, mais jusqu'à la dernière minute, il y a eu des modifications, des changements, etc., jusqu'au milieu du mois, début septembre, même mi-septembre. Et donc, elle a été. Mais disons que ça, elle a fait l'objet de conférences de maires, de réunions entre maires pour arriver à une acceptation par tous, et ce à quoi on est arrivé, puisque le Conseil métropolitain a été adopté à l'unanimité des maires, l'ensemble des maires ont voté pour, et à la grande majorité du Conseil métropolitain, je pense qu'il y a juste le Front National qui a dû voter contre ou s'abstenir. Donc c'est vrai que c'est quand même un processus qui était très long, qui a demandé beaucoup de travail, et qui au final arrive à une décision qui se passe pas trop dans la douleur, parce que toutes les mairies... Donc on remercie Nathalie, qui a beaucoup travaillé avec l'ensemble des DGS hein, de la métropole à tous ces calculs-là. Donc en fait, on vous représentera ça lors du prochain conseil municipal, on vous demandera de voter, puisque une fois que c'est voté en conseil métropolitain, ça doit être l'attribution compensatoire définitive doit être votée par chacun des 31 conseils municipaux. Il faut que chacun des conseils municipaux vote cette attribution compensatoire, ce mode de calcul qui a été fait. Il suffit qu'un seul des conseils municipaux vote contre pour que l'on revienne au mode de calcul dit réglementaire proposé par la loi. Bon, la loi autorise des dérogations, bien entendu, mais la méthode réglementaire. Et là, ce serait une véritable catastrophe. Enfin, on expliquera, parce qu'on passerait à des montants difficilement soutenables pour les budgets des communes. En fait, les modes de calcul, c'est à savoir... En fait, le grand débat qu'il y avait à chaque fois, c'est est-ce que le mode de calcul pour aller vite, hein, sur, par exemple, calculer les charges liées, par exemple, compétences incendie, les bornes incendie, je prends ça comme exemple. Il y avait deux possibilités. Soit on faisait, sur 10 ans, la réalité des dépenses de la commune sur le remplacement des bornes incendie, soit on prenait une moyenne sur... qu'est-ce que coûte une borne d'incendie en remplacement? Ben, c'est vrai que s'il y a certaines communes, il suffit qu'elles aient toutes remplacées il y a 11 ans et que pendant 10 ans, elles n'ont fait aucune dépense, elles se retrouvent avec zéro à transférer. Alors qu'il suffisait qu'une commune ait remplacé toutes ses bornes d'incendie 5 ans auparavant et elle transférait le maximum. Donc c'est vrai que c'est lié à des temporalités, tout ça. Et donc là, sachant que cette attribution de compensation, elle est définitive après. Après, la métropole devra... gérer l'ensemble de ses compétences avec cette somme initiale qui est transférée et qui est figée après. Hein. Après, toutes les évolutions liées à l'augmentation de population, etc., c'est la métropole qui devra gérer ça et trouver les recettes par la suite. Donc, voilà, c'est ce genre de dérogation, quel mode de calcul on prend, hein, c'est un peu ça. Et donc, juste, voilà, pour terminer, l'étape, c'était... toute la négociation qui s'est faite entre les maires, la validation par la CLECT, qui est un organe je dirais, formel, ensuite le vote en conseil métropolitain, et maintenant, dernière étape, les votes en conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, hein, Joanne et Alain-Laurent, après?
Vous avez dit, il y a les définitives, mais il n'y a pas moyen en fonction de la... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si la situation de la commune évolue, parce que j'ai entendu un peu les différents discours entre les maires, notamment certains disaient « Ouais, mais moi, j'ai beaucoup plus de jours du voyage, ça me demande plus d'entretien, machin, etc. » Si donc ces communes-là, il y a une évolution par rapport à la situation aujourd'hui, parce que c'est comparé par rapport à la situation aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen que cette convention définitive soit revue, ou alors tout le delta maintenant qui va apparaître en termes de dépenses, c'est la métropole qui la prend et uniquement la métropole.
C'est tout le delta, c'est la métropole. C'est figé. Alors, il se peut que les attributions de compensation soient révisées, mais sur des cas très précis. S'il s'avère qu'il y a eu une erreur énorme de fait dans un calcul, par exemple, donc là, ils acceptent de revenir là-dessus. Si, par exemple, il y a certaines compétences sur lesquelles on n'a encore pas statué, notamment la compétence tourisme, il y a deux ou trois autres cas de figure comme ça où il y aura encore des ajustements sur certaines compétences. Mais sinon, c'est figé. Quelles que soient les évolutions démographiques, imaginons qu'une commune, maintenant, dans les 10 ans qui viennent, sa population chute drastiquement, elle devra toujours payer. C'est le même système qu'on a eu en 2002 quand on est passé à l'agglomération et le transfert de charges depuis est figé. Il n'y a même pas d'indexation sur le
taux d'inflation. Sur le coût, sur...
Par exemple, on a transféré de la masse salariale qui est amenée à évoluer, puisque forcément chaque année ou chaque année et demie, en tout cas, il y a une augmentation des choix. Mais c'est pour la métropole.
D'accord.
Il y a forcément.
D'accord. Il y a des questions par rapport à ça. Comment ça se passe aujourd'hui le transfert on a commencé là, le transfert des personnels.
Alors,
au
1er janvier. Donc en ce moment, on est en pleine organisation justement du transfert des personnels techniques. Donc on vous l'a déjà dit, au niveau des services techniques, ça aussi, La compétence voirie, la compétence plus, la compétence espace public, tout ça, chez nous, personne n'est spécialisé là-dedans. Et notamment au niveau des services techniques, c'était un petit peu tout le monde, on est polyvalent, tout le monde fait un petit peu de tout. Des services, de la voirie, des espaces publics, de l'entretien des bâtiments communaux, de la logistique, barrières, tables, chaises, etc. Bon. Donc, nous, voilà... Le transfert a été un petit peu compliqué. Alors que dans des grandes communes, les gens sont spécialisés, les agents sont spécialisés. Donc, on a accepté que... Et c'est vrai que c'était compliqué de transférer des agents à 50%, à 30%, et qu'ils se retrouvent avec deux feuilles de salaire, deux employeurs. C'était un peu compliqué. Donc, nous, on a fait un calcul en équivalent ETP, équivalent temps plein. Ça correspondait sur 5, on va dire ETP, grosso modo, hein, de services techniques, à 2 équivalents ETP. Un petit bout de Thierry Canac de management, un petit bout, etc. Et donc, on a convenu de transférer Patrice Nougared, et on vous l'a déjà dit, et Rodolphe Chevalier. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que l'exercice de la compétence voirie et espace public va se faire au niveau de la métropole dans le cadre de pôles territoriaux. Donc, on a défini 5 pôles territoriaux sur la métropole, dont le pôle ouest, là, qui correspond au secteur du SCOT. Et donc, notre pôle, c'est Garrigues-et-Piémont. Hein. Et donc, Juvignac, Saint-Georges, Gravelles et Murviel. Donc, en fait, les agents donc, vont changer d'employeur au 1er janvier, administrativement. Ils vont rejoindre une équipe de une trentaine de personnes, c'est ça ? Oui. Qui auront un chef d'équipe, un cadre A, hein, qui va avoir à la fois deux casquettes, je dirais un peu la casquette gestion au quotidien de l'entretien des voiries, etc. Et puis la partie programmation des travaux. Et donc, il y aura dans chaque commune un référent, donc c'est ça qu'il faut qu'on creuse bien encore sur Murviel, de proximité. Pour pouvoir justement faire le lien de proximité avec sur toute la gestion quotidienne d'entretien, etc., en lien avec les élus et les besoins. Et puis, nous, les maires, enfin les élus, ou les adjoints, enfin les élus en charge de ces questions-là, seront aussi en lien direct avec le responsable territorial, qui... Le coordinateur de pôle, il s'appelle ça. Pour notamment toutes les questions d'organisation, de coordination et puis de planification des travaux. Donc en fait, on s'oriente vers un local technique centralisé à Juvignac. T'es pas encore sûr ? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Et se pose encore la question de l'embauche du matin. Est-ce qu'ils embauchent au même endroit ou... Et donc, s'ils embauchent au même endroit le matin, ça veut dire qu'ensuite ils sont répartis sur les 4 communes en fonction des besoins. Ou est-ce qu'ils embauchent là-bas sur place, mais ils sont affectés prioritairement à une commune, c'est ce qu'on a convenu jusqu'à présent, donc ça restera. Sachant qu'il y a des opérations qui parfois demandent plus de monde ponctuellement, et donc là l'idée c'est bien entendu de. Ce qu'on voit tout de suite, le gros avantage, c'est qu'on va avoir accès à du matériel qu'on n'a pas. Ça va être immédiat. Ça va être immédiat. Enfin, j'espère. Mais enfin, disons, ça peut être rapide, quoi. Le fait qu'ils ne vont pas envoyer quelqu'un travailler à balayer les rues, ça, alors que, voilà.
On déplace la Le matériel de la commune rentre dans le pont commun.
Enfin, une partie du matériel, hein, parce qu'il y a du matériel. On avait voté tout ça. Il y a du matériel qui est polyvalent, donc là on a réparti. Hein.
C'est un vieux, ce que vous évoquiez, mais effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, on est en train de recouper avec des petites communes. Donc, c'est Juvignac, c'est Saint-Georges, c'est Turviel
et Gravelles.
Et Gravelles, pardon, qui n'ont pas forcément. Nous, on est les plus démunis par rapport aux autres, ouais, mais eux, ils n'ont pas forcément non plus du super matos que peuvent avoir Montpellier.
Ouais, enfin, quand même, c'est autre chose. C'est quand même autre chose. On passe à un autre niveau. Autre point, juste pour terminer, autre point d'information. On a voté aussi hier en Conseil métropolitain la démarche d'adoption du schéma de mutualisation. Alors un schéma de mutualisation, on va vous le transmettre. dans le cours, dans d'ici quelques jours ou avant, en tout cas avant le prochain conseil municipal. C'est le schéma de mutualisation, c'est un document où sont définis par type de service tout ce qu'on peut mutualiser. Donc c'est la loi aussi qui leur donne hein, que les collectivités aillent vers aient un schéma de mutualisation. C'est obligatoire. Et donc on définit par service tout ce qu'on peut, vers quoi on peut tendre en termes de mutualisation. Par exemple, dans le domaine juridique, dans le domaine de la communication, dans le domaine du traitement, enfin des e-services, etc. Donc c'est... et les actions qui peuvent être
menées. On a fait un état des lieux déjà, des pratiques.
Actuelles.
De mutualisation, de coopération. Et ensuite, déterminer aussi toutes les prospectives qu'on pouvait mettre en place sur différentes thématiques pour travailler ensemble. Sur les modèles du regroupement qui était initié entre la ville-centre, Montpellier et les autres et la métropole, comment est-ce que toutes les communes pouvaient travailler ensemble pour de la mutualisation de services.
Donc on vous enverra le document détaillé. Il faudra l'adopter.
Ça sera aussi le même regroupement de communes, c'est-à-dire Grabel.
Non. Là c'est à la carte. C'est à la carte. C'est d'accord. Deux communes qui veulent travailler ensemble, plusieurs communes, ou enfin, voilà, l'idée c'est de... Yes.
C'est la question.
Pardon ?
Moi je me posais des questions, je suis sceptique sur un terme de transfert, mais les chemins de gros, je m'en fais plus.
Ils sont transférés.
Ça veut dire que, en temps, quand on pouvait, par exemple, aux terrassiers locales, d'accord.
Si on en avait un.
Comment ?
Si on en avait un.
Des fois, on en a deux. Ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, ça, ça disparaît. Hein ? Voilà.
Ça dépend d'un... Ça
c'est le côté proximité qui n'a pas dans le bon sens. Si. Ça va être...
Et après, je rejoins...
Il
y a pour beaucoup de prestations effectivement qui étaient faites en régie dans les petites communes. Maintenant, si ça passe à une échelle métropolitaine, l'objectif étant de rationaliser aussi les coûts. Ça coûte moins cher si on passe par marché pour faire pour plusieurs. Donc il y a des prestations qui étaient faites par des gens qui seront faites effectivement par des entreprises.
Ça va pas aider.
Et plus forcément par...
Les locaux, mais ça va être difficile.
Ben oui, mais bon.
Parce que qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, c'est un marché à bon de commande immense qui va être fait. Ça sera les gros qui l'auront. Peut-être qu'ils pourront sous-traiter un tout petit peu, et encore, je ne suis pas sûr, ou écraser les petits.
Tout dépend si
ce
on met...
Ce qui a été fait là, c'est le transfert des marchés existants vers la métropole, pour qu'ils s'engagent à continuer les marchés sur la durée. Le marché à banque commune, par exemple. Mais effectivement,
c'est là où dans le code des marchés, faut être assez... C'est un peu comme pour les cantines, la restauration scolaire. Faut être assez... Si on a des exigences en termes de réactivité par rapport à l'entretien, des choses comme ça, très précises, ça les amènera forcément à sous-traiter avec de la proximité. Il faut arriver dans le CCTP à vraiment anticiper ça. Mais bon,
non, mais c'est juste... C'est un problème de...
Non, mais
de
c'est vrai là, qu'il faut... Non. Et juste, dernier élément d'information que vous partiez, c'est sur l'antenne, le relais, donc l'antenne pour le téléphone
vous l'avez vu,
mobile.
Tout le monde l'a vu.
Donc vous avez vu qu'elle est installée.
C'est très discret. Hein. Non, mais il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu.
C'est discret, je n'ai pas vu.
Ah.
Bon, je rentre tard.
Non, mais même. Non, elle n'est pas éclairée. C'est la tour Eiffel.
Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé qu'il y a plus, ça marche mieux maintenant le téléphone ou pas.
Non, moi c'est ça.
En fait, non, parce que c'est pour ça que je veux communiquer là-dessus. On croit qu'on communique dans le Midi Libre. L'antenne n'est pas installée en fait.
Oui, c'est ça.
Elle n'est pas débranchée. Il y a juste le pilote.
Non, elle est visible.
Oui, mais
elle est visible.
Le problème, c'est que ça va résoudre, vous m'avez dit, hein, pour ceux qui c'était uniquement. C'était oui,
orange.
C'est ça.
Orange.
Orange.
Tout le monde n'est pas sur orange.
Orange et Free.
Ah, et Free déjà.
Voilà.
Parce que Free, c'est orange. Free, ils ont racheté.
Ah oui, c'est Free, c'est orange.
Et on est.
Et il y a des contacts en cours avec Bouygues et SFR pour qu'ils fassent la même chose. Même s'ils disent comme Orange que en ce moment c'est dur.
Ouais.
C'est toujours dur.
Voilà, donc en fait elle n'est pas encore électrifiée et ça doit être fait dans les semaines qui viennent là. Et donc elle ne sera opérationnelle, enfin l'antenne ne fonctionnera qu'on sera informé.
On nous a donné une financière assez large avec un début qui commence vers le 28 septembre peut-être, tout récemment. Et puis la date échéance qu'elle tout devrait installer, c'est le 18 décembre. mais qui sera probablement fait un peu avant, mais il y a des délais de construction, de transformation, de 2 mois.
On pourra tous envoyer les... Voilà, donc la séance est close, je vous remercie.
Non.
Ah, pardon.
Oui.
Ah oui, excusez-moi. Oui,
Non, mais allez-y,
heureusement. Donc le prochain conseil municipal, on va à partir de maintenant fixer le prochain conseil municipal à chaque séance. Donc ce sera le 30 octobre.
C'est pas mal.
Voilà.
Sauf.
C'est pas les vacances scolaires. Hein.
Oui. C'est le dernier. Ouais, c'est la seconde semaine des vacances scolaires.
Ouais. Voilà. À 19h.
À 19h.
C'est vendredi, hein.
C'est vendredi. Vendredi 30 octobre. Alors sous réserve. Alors parfois, vous savez que parfois on est obligé de décaler parce qu'il y a des délais que nous donne la métropole ou autre. On bouge, mais on va essayer de s'y tenir et on essaiera d'avoir un rythme d'un conseil tous les mois comme ça. Non, elles sont mises dans vos boîtes.
Oui.
Dimanche matin.